Ésaïe chapitre 53, des versets 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous savons que ta parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous t'en supplions. Fais ton œuvre au travers de ta parole en nous pour que nous puissions recevoir ce que tu as prévu, Seigneur. Et nous aider à te glorifier, à t'honorer comme tu le mérites. Au nom de Jésus. Amen. Si Dieu existe, pourquoi n'intervient-il pas dans le monde qu'il a créé et qu'il aime apparemment? C'est une question que vous vous êtes peut-être posée, que vous vous posez peut-être aujourd'hui. Pourquoi n'est-il pas, par exemple, intervenu pour empêcher deux guerres mondiales au XXe siècle qui ont fait plus de 70 millions de morts? Quatre attentats suicides le 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3000 morts. Une crise financière en 2008 qui a peut-être fait des milliers, des millions de chômeurs partout dans le monde. Si Dieu existe, pourquoi n'intervient-il pas aujourd'hui pour éradiquer les maladies qui tuent nos amis, qui tuent les membres de notre famille, qui vont peut-être nous tuer, me tuer un jour? Réfléchissons. Derrière ces questions, il y a en réalité, en fait, il y a en réalité une volonté de demander des comptes à Dieu, n'est-ce pas? Il y a aussi une présupposition majeure, et cette présupposition derrière toutes ces questions, c'est que Dieu devrait intervenir dans le monde selon mes exigences et mettre en œuvre finalement le plan, le même plan que le mien pour sauver le monde. C'est un peu comme si en posant ces questions, je me disais, ou je disais à Dieu, voilà ce que je ferais, Dieu, si j'étais à ta place. Ça serait tellement mieux. Non? Et là, je ne peux m'empêcher de faire référence au film Bruce Tout-Puissant. Alors, je n'aime pas vraiment Jim Carrey, je l'avoue, mais ce film m'a séduit. Jim Carrey, qui a joué dans Bruce Tout-Puissant, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais il s'agit d'un journaliste qui travaille pour une chaîne de télé locale et qui a tout pour être heureux. Ses reportages sont drôles et originaux, ce qui est intéressant pour un journaliste. Il vit avec une belle femme qu'il aime, mais tout bascule le jour où il apprend qu'il n'a pas décroché le job de ses rêves. Et ce job, en fait, c'est d'être le David Pujadas de sa petite chaîne locale, c'est d'être le présentateur vedette, un petit peu, du journal télévisé. Alors il commence à remettre en question la justice de Dieu, finalement. Pourquoi ? Et à contester la façon dont Dieu gère le monde. Si vous avez vu ce film, vous vous rappelez peut-être de ce que je suis en train de dire. Et alors Dieu, dans le film, lui lance un défi. Il lui propose d'avoir tous les pouvoirs, de diriger le monde, d'être Dieu. D'où le film d'ailleurs, d'où le titre du film, hein, Bruce Tout-Puissant. Et là, c'est une catastrophe. Le résultat est absolument catastrophique. Il essaie de répondre à toutes les prières qui lui arrivent par mail. Il dort plus, il mange plus, les prières ne sont pas exaucées. Bref, le résultat est catastrophique, non? Le problème, ou plutôt la bonne nouvelle, mes amis, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Et que son plan pour sauver le monde est radicalement différent du nôtre, du mien en tout cas. En fait, ce plan est tellement différent qu'il a été méprisé, rejeté, quand Dieu est intervenu dans l'histoire pour le mettre en œuvre, pour l'exécuter. Et c'est un peu ce que prophétise en fait le prophète Ésaïe, un prophète, un porte-parole de Dieu, hein, qui à la fois rappelle à Dieu l'alliance que Dieu a passée avec son peuple, et qui annonce un petit peu l'avenir. Et c'est ce que prophétise Ésaïe dans la seconde strophe du 53e chapitre d'Ésaïe, les versets que nous avons lus. Vous vous rappelez, la dernière fois, Ésaïe a résumé son poème un petit peu, chapitre 52, des versets 13 à 15, en nous parlant d'un serviteur renversant. Est-ce que vous vous rappelez? Un serviteur renversant au travers duquel la sagesse de Dieu va renverser la sagesse des hommes. Eh bien, il y a une progression dans les versets que nous avons lus, dans la mesure où, dans ces versets, Dieu va décrire la naissance et la vie de ce fameux serviteur. Un serviteur, cette fois, repoussant, faible, au travers duquel Dieu va accomplir son plan et révéler sa puissance. Et c'est un peu l'idée principale que j'aimerais que nous retenions tous ensemble ce soir. C'est que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et je pense que c'est l'idée principale des versets que nous avons lus. La puissance de Dieu s'accomplit au travers ou dans la faiblesse. Regardons encore le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? La première chose que j'aimerais voir avec vous dans ces versets, c'est qu'Ésaïe attire notre attention sur l'incrédulité d'Israël. Donc premier point, un peuple incrédule. Regardez encore ce verset 1. Et est-ce que vous avez remarqué le lien entre la première et la deuxième strophe du chant de serviteur ? Autrement dit, le lien entre ce premier verset du chapitre 53 et le dernier verset du chapitre 52. Est-ce que vous voyez comment ça marche ? Quel est le lien logique ? Je pense que ce lien est assuré par un contraste. Est-ce que vous avez vu ce contraste ? Entre d'un côté, regardez le verset 13 du chapitre 52, d'un côté les nations et les rois, des non-juifs donc, hein, qui ont vu et compris ce qui ne leur avait jamais été raconté et ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Donc d'un côté on a des nations qui ont vu et compris ce qui ne leur avait jamais été raconté et ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Regardez maintenant le verset 1. De ce côté, Ésaïe attire notre attention sur le peuple d'Israël, dont il fait partie, hein, qui lui n'a pas cru à ce qui leur était annoncé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? C'est une question rhétorique, n'est-ce pas ? Donc la question pourrait être, qui a cru ? Qui a cru ? La réponse pourrait être en fait très peu de monde. Et Ésaïe est en train de réfléchir sur le passé en disant finalement, en fait, nous n'avons même pas cru nous en tant que témoins israélites. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que dans ce verset, Ésaïe nous montre le serviteur non plus au travers des yeux des nations qui ont cru et qui ont vu, mais au travers de qui ? Des Israélites, ou en tout cas de témoins israélites qui ont compris et accepté le message du serviteur, mais qui ont fait preuve d'incrédulité dans le passé, et un passé sur lequel ils méditent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est la façon dont on peut comprendre ce premier verset. Hein. Ésaïe est en train de méditer sur le passé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Mettons-nous dans la peau des Israélites. Hein. Comment croire en effet que Dieu puisse révéler sa puissance au travers d'un moyen aussi faible et insignifiant que celui décrit dans le verset suivant. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Un peuple incrédule. Deuxièmement, un serviteur apparemment insignifiant. Regardons ensemble le verset 2. Il s'est révélé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Un serviteur apparemment, hein. Insignifiant. Alors dans l'histoire d'Israël, puisque vous connaissez bien l'Ancien Testament, le bras de l'Éternel fait référence à la puissance qu'il a déployée le jour où, trois petits points de suspension, Ésaïe, chapitre 51, versets 9 et 10. Si vous tournez la page, c'est juste à côté. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe. « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. » Réveille-toi comme au jour d'autrefois, au temps des générations passées. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre ? N'est-ce pas toi qui mis la mer à sec, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés ? À quel événement de l'histoire d'Israël ce passage fait-il référence selon vous ? Ah ? Allez ! À l'Exode, mais oui, absolument, à l'Exode, ouais, au jour où Dieu, vous vous rappelez, a sauvé, libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, en partageant la mer des roseaux en deux. J'ai de fraîches images dans ma tête, puisqu'avec Emma, nous avons regardé Moïse, les 10 commandements, en dessin animé, il y a quelques jours. Et vous vous rappelez, ce jour-là, le jour de l'Exode, mais Dieu a manifesté une puissance extraordinaire. extraordinaire, en séparant la mer en deux. Est-ce que vous avez remarqué comment la puissance de Dieu, notamment dans du verset 1, son bras, contraste avec la faiblesse apparente de ces versets. Regardez encore le verset 2, hein. Un rejeton, un jeune pousse, un bourgeon fragile et vulnérable. Vous avez déjà vu des bourgeons? C'est assez vulnérable, hein. Une racine sortant d'une terre sèche, aride, assoiffée, et donc menacée par la mort, hein. Un homme qui finalement n'attire pas vraiment l'attention, qui ne paye pas de mine, comme on dit, et qui n'inspire guère confiance. Et donc pourtant Dieu va se servir pour sauver son peuple. Mais comment croire? Comment est-ce possible? Comment croire que Dieu va révéler sa puissance au travers d'un serviteur apparemment insignifiant? Comment Dieu peut-il être à l'œuvre de cette manière en vue d'un nouvel exode, puisque c'est ce que le prophète Ésaïe, un nouvel exode, la libération d'un autre esclavage. Est-ce la façon dont Dieu va intervenir pour sauver son peuple, comme il a fait en Égypte? À cette réponse, les Israélites, par le passé, ont dit, bien sûr que non. Est-ce que c'est la façon dont Dieu va manifester sa puissance dans la faiblesse? Eh bien, cette question rhétorique, la réponse, mes amis, est oui, bien sûr, c'est exactement la façon dont Dieu va intervenir pour sauver son peuple. Non pas de l'esclavage d'un pays, l'Égypte par exemple, mais de l'esclavage d'une réalité beaucoup plus oppressante, ce que la Bible appelle le péché. Le péché et la mort. C'est exactement la façon dont Dieu en fait va révéler sa puissance. Incroyable. Dans la faiblesse, dans quelques grammes de chair humaine. Quelques grammes de chair humaine, dans un monde de brut, un peu comme le chocolat. Quelques grammes de finesse. Dans un monde de brutes, dans un rejeton, un nourrisson fragile et vulnérable. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Un nourrisson fragile et vulnérable qui va devoir se battre pour survivre. Je vous renvoie au début du Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu notamment. Vous vous rappelez quand le roi Hérode, le roi de Judée à l'époque de Jésus, avait ordonné le massacre de qui? De tous les jeunes garçon de moins de 2 ans à Bethléem et dans sa région, pour éviter que le Messie, le roi promis, ne menace son pouvoir. Ne voyez-vous pas Jésus dans ces versets? Un peuple incrédule qui n'a pas cru. Pourquoi ce peuple incrédule n'a pas cru? À cause du verset 2, hein? Parce que le serviteur était apparemment insignifiant. Comment croire en un serviteur insignifiant? Troisièmement et dernièrement, un serviteur inconsidéré. Regardez avec moi le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Est-ce que vous avez vu la logique interne de ces versets? C'est extraordinaire. Premièrement, le peuple est incrédule. Pourquoi le peuple est incrédule? À cause du verset 2. Parce que le serviteur est apparemment insignifiant. Et maintenant, quelle est la conséquence de cette incrédulité? Je pense que c'est le verset 3, hein. Regardez, le serviteur a été méprisé et abandonné des hommes. Ce fut un homme de douleur habitué à la souffrance, peut-être à cause du mépris subi. Il est semblable à celui devant qui l'on se voile la face ou qui vous fait détourner le regard. Il a été méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Est-ce que vous avez vu la logique de ces versets un peu incrédules? Pourquoi? Parce que le serviteur est insignifiant. Et quelle est la conséquence de cette incrédulité? C'est que le peuple le méprise, ce serviteur. En fait, ce serviteur ressemble un peu, attention, j'ai beaucoup réfléchi avant de penser à cette illustration, le serviteur ressemble un peu à la dame pipi du centre commercial de McDo de la Part-Dieu. Et si vous êtes déjà allé au centre commercial de la Part-Dieu et au McDo, il y a une dame qui fait bien son travail, d'accord, et qu'on appelle une dame pipi, quoi. Quelqu'un qui s'occupe de nettoyer les toilettes, qui sert un peu les clients du McDo. Autre exemple, le serviteur est un peu semblable au balayeur ou à l'employé municipal qui balaye notre rue une ou deux fois par semaine et auquel nous ne prêtons pas vraiment attention. Parfois, on ne sait même pas qu'il est là, on ne sait même pas qu'il est passé par là. Et pourtant, la rue est balayée, il n'y a plus de feuilles. C'est utile, hein, surtout l'automne. Mais ce sont des serviteurs auxquels nous ne faisons pas attention, n'est-ce pas? Que nous faisons parfois même semblant de ne pas voir. vous savez, dont on détourne le regard, et parfois même que l'on méprise. Comment croire que Dieu va révéler sa puissance au travers d'une dame pipi? C'est un peu la question que se posent les Israélites. Comment croire que Dieu va révéler sa puissance au travers d'un employé municipal qui balaye la rue et qui pourtant fait un travail important? Comment croire que Dieu va révéler sa puissance au travers d'un serviteur inconsidéré, faible? Est-ce la façon dont il va intervenir pour sauver son peuple du péché et de la mort? Réponse: oui, 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 et encore oui, c'est exactement la façon dont Dieu va intervenir dans notre monde pour sauver tous ceux qui placent leur confiance en Christ, dont l'histoire nous est clairement dépeinte dans les évangiles. Deux exemples qui vont certainement vous dire quelque chose. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 11, Jésus, le serviteur de l'Éternel par excellence, est venu chez les siens, le peuple juif, et les siens ne l'ont pas reçu. Autre exemple, Jean chapitre 1, versets 45 et 46. Voici ce que demande Nathanaël à propos de Jésus qui a grandi à Nazareth. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Sympa. Toujours sympa. Sans parler de la trahison de Judas. Vous vous rappelez cet épisode lorsque Judas trahit Jésus? Du triple reniement de Pierre. Des gifles, des crachats et des souffrances que Jésus a endurées sur la croix au paroxysme de sa faiblesse et de son humiliation. Et pour la petite histoire, l'historien romain Tacite a qualifié la crucifixion de supplice le plus honteux de son époque. Alors comment croire que Dieu puisse révéler sa puissance au travers d'un serviteur non seulement inconsidéré, mais de surcroît crucifié, publiquement humilié? Mais c'est aberrant, non? C'est aberrant. C'est exactement ce que pensent mes amis musulmans lorsque je leur explique le sens de la mort de Jésus. Mais pour eux, il est impossible, voire blasphématoire, de croire que Jésus a été cloué sur une croix. Pourquoi? Parce que cela rend Dieu faible et incapable de protéger son messager, l'un de ses plus grands messagers. Pour des raisons différentes, l'apôtre Pierre, tiens, l'apôtre Pierre a également considéré que la mort de Jésus était inconcevable. Vous vous rappelez? Écoutez sa réaction après avoir confessé que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. Ne cherchez pas, je vous le lis. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. » C'est mal, hein? Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Un peuple incrédule. Pourquoi? Parce que le serviteur était apparemment insignifiant. Et un serviteur qui a par conséquent été inconsidéré. Alors j'aimerais juste essayer de conclure et d'appliquer ce que nous avons lu de deux manières différentes. Et ces deux manières, vous les avez dans le plan de ce message, dans vos petits bulletins. Première application, surmonter l'incrédulité. Deuxième application, faire confiance. Ou avoir confiance en la puissance. Mais j'aimerais commencer par vous raconter une histoire, puisque vous aimez bien les histoires, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'un randonneur expérimenté, un peu comme Jonas par exemple, ou comme Alex, qui emprunte un chemin difficile. L'illustration s'arrête là en ce qui concerne Jonas et Alex, je précise. Qui emprunte un chemin difficile avec des passages d'escalade, qui glisse sur une pente herbeuse, qui tombe dans le vide et qui ne doit sa survie qu'à une branche à laquelle il s'accroche in extremis. D'ailleurs, il ne sait pas trop ce que cette branche fait là, elle pousse entre deux rochers, donc il s'y accroche, vu qu'il va tomber dans le vide. Vous connaissez cette histoire? Non? Oui? Bon, c'est pas grave. Alors cet homme est peu habitué à prier. Il a peut-être fait deux ou trois prières dans sa jeune enfance, hein. Bon, parce qu'on lui apprenait à prier comme ça. Mais il se décide quand même à appeler à l'aide. vu qu'il est dans une situation peu glorieuse. Alors il prend son courage à deux mains, il ravale son orgueil, il dit « Il y a quelqu'un là-haut ?» Bon, quelques secondes se passent, et là, surprise, « Oh !» Une voix se fait entendre. « Oui, il est à moi, Dieu !»« Ok, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et là, Dieu répond « Oui, oui, fais-moi confiance, lâche la branche !» Et là, l'homme réfléchit quelques secondes, et puis réplique « Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut ?» Pas mal. L'histoire de ce randonneur ne pourrait-elle pas être finalement celle d'Ésaïe et du peuple juif, ou en tout cas des témoins israélites, qui en réfléchissant sur leurs conditions spirituelles passées, ont fait preuve d'incrédulité, en apprenant que le Dieu de l'Ancien Testament, celui en qui ils croyaient, allait révéler sa puissance dans la faiblesse, au travers d'un serviteur repoussant, insignifiant, inconsidéré. L'histoire de ce randonneur ne pourrait-elle pas être celle d'Ésaïe? Je ne sais pas. Mais l'histoire de ce randonneur, mes amis, ne pourrait-elle pas également être la nôtre? Peut-être la mienne. Quand je suis parfois tenté de faire preuve de la même incrédulité à l'égard du plan, de la stratégie de Dieu pour sauver le monde. Un plan, une stratégie tellement invraisemblable, hallucinante, abracadabrantesque, que la plupart des hommes, en fait, a refusé d'y croire. Il y a 10 000 ans, lorsque Jésus est venu, et que rien n'a vraiment changé aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment vous positionnez-vous aujourd'hui? Êtes-vous toujours tenté de faire preuve de la même incrédulité à l'égard du plan de Dieu? Dieu dont la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de dire, comment surmonter l'incrédulité? Je vous donne deux pistes de réflexion. La première piste de réflexion consiste à confesser. Confesser humblement notre incrédulité devant Dieu, qui sait tout de toute façon, en tant que Dieu omniscient. Donc la prière n'est pas une séance d'information. Dieu sait déjà ce que nous allons lui dire. Confessons humblement notre incrédulité et supplions Dieu, comme cet homme dans le Nouveau Testament a supplié Jésus. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Confessons. N'ayons pas peur de confesser à Dieu notre incrédulité. Et la deuxième piste de réflexion, c'est consulter. Consulter. Consulter les Écritures, bien sûr, et notamment les passages du Nouveau Testament, pour comprendre que ce serviteur repoussant, insignifiant, en apparence, inconsidéré, fait en fait partie intégrante du plan, de la stratégie de Dieu pour sauver le monde, pour sauver son peuple, pour comprendre, comme Pierre l'a compris après son rétablissement dans sa mission, que Jésus a été, et je cite 1 Pierre chapitre 1 verset 20, que Jésus a été désigné d'avance, avant le fondation du monde. Pourquoi faire 1 Pierre chapitre 3 verset 18, pour mourir, et comme Jonas nous l'a lu tout à l'heure, pour mourir une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que vous croyez vraiment cela? Deuxième application, après surmonter l'incrédulité, c'est la confiance en la puissance. La confiance en la puissance. Alors si vous êtes parmi nous pour la première fois, et je pense que je ne vois pas de visiteurs parmi nous, mais si certaines personnes étaient là pour la première fois, elles auraient peut-être remarqué que notre église ne paye pas de mine. N'est-ce pas? C'est le moins que l'on puisse dire. Enfin, nous ne sommes pas très nombreux, une vingtaine d'adultes en moyenne par semaine, avec une dizaine d'enfants. Hein. Une église qui se réunit dans une salle située au sous-sol, bon, et qui n'est donc pas très visible. La preuve, c'est qu'il faut à chaque fois sortir des panneaux pour indiquer aux gens la voie à suivre. Et merci d'ailleurs à ceux et celles qui le font fidèlement chaque semaine. Et des locaux, une salle en sous-sol qui, de surcroît, ne nous appartient pas, ce qui fait que nous ne pouvons pas toujours faire ce que nous voulons. Et si ces personnes avaient remarqué ces choses, bien je ne pourrais dire qu'une chose, c'est que c'est vrai, certes. Mais si vous venez régulièrement dans cette église, comme c'est notre cas avec Meg et les enfants, hein, vous avez peut-être en fait le même sentiment. Finalement, vous vous sentez peut-être insignifiant et inconsidéré. à l'image de celui en qui vous croyez, finalement. Les flyers que vous distribuez pour faire la promotion des sera à vous de voir, bien vous les retrouvez soit par terre, dans le caniveau, soit dans les poubelles des métros Jean Massé, Debourg ou Gerland. Vous avez peut-être le sentiment d'être faible. Je ne sais pas. C'est peut-être votre sentiment, c'est parfois mon sentiment. Mais si c'est votre sentiment, et encore une fois, si vous vous sentez concerné intérieurement, avez-vous conscience que cette faiblesse apparente est en réalité une force, notre plus grande force? Est-ce que nous avons conscience que ce qui est vrai de l'œuvre de Dieu au travers de son serviteur est aussi vrai de l'œuvre de Dieu au travers de ses serviteurs, de vous et de moi? Sa puissance accomplie dans la faiblesse, c'est ce dont témoigne l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, après avoir prié trois fois que Dieu éloigne de lui une écharde dans la chair. Regardez ce qu'il dit, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10, ne cherchez pas, je vous le lis. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous avez vu comment dans ce verset, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse au travers d'hommes et de femmes qui ne sont pas toujours des super-héros, mais qui ont simplement confiance en la puissance de Dieu, et qui l'obéissent, qui font ce que Dieu leur demande de faire. J'aimerais vous lire le témoignage poignant de Johnny Tada Erickson. Est-ce que vous connaissez ce livre qui porte bien son nom, hein, Johnny? Johnny Tada Erickson, donc, qui a été paralysé de la nuque aux pieds suite à un accident de plongée alors qu'elle était vraiment toute jeune, entre 17 et 18 ans, me semble-t-il. Et son témoignage est vraiment poignant. Et si vous voulez lire un livre, vraiment, que vous ne lâchez plus, je vous conseille de lire ce livre. Je n'ai pas l'habitude de finir les livres que je commence à lire, mais franchement, ce livre, une fois que je l'ai commencé, je n'ai pas pu le lâcher. Regardez ce qu'elle dit. « Ne serait-ce pas extraordinaire si en cet instant, devant vous, j'étais miraculeusement guéri? Si je quittais mon fauteuil roulant et me tenais sur mes pieds? Quel miracle! Nous serions tous remplis d'admiration et de louange. Chacun de nous pourrait l'attester personnellement. Nous aurons vu la merveilleuse puissance de Dieu à l'œuvre. Ne serait-ce pas palpitant? C'est ce que je disais à un auditoire de 1100 jeunes. Je me tus, les laissant se représenter la scène, puis je poursuivis. Mais bien plus extraordinaire et admirable serait le miracle de votre salut, la guérison de votre âme. Vous comprenez, il serait infiniment plus beau, puisqu'il aurait ses effets pour toujours. Si mon corps était soudainement et miraculeusement guéri, je retrouverais l'usage de mes membres, pour 30 ou 40 ans, puisque mon corps mourrait, mais une âme vit pour l'éternité. Du point de vue éternel, mon corps ne durera qu'un clin d'œil. » Et je reprends le livre, un passage plus narratif. « Au cours des mois qui suivirent le voyage à Chicago, je commençais à considérer mon fauteuil roulant comme un outil permettant de toucher les élèves dans les classes. De nombreux jeunes se donnèrent à Christ après m'avoir entendu. Cela aussi était quelque chose de meilleur. Je comprenais pourquoi l'apôtre Paul pouvait se réjouir dans la souffrance, pourquoi Jacques exhortait à regarder les tribulations comme un sujet de joie, et pourquoi Pierre ne trouvait pas étrange que la foi fût mise à l'épreuve. Toutes ces afflictions et ces difficultés avaient finalement des résultats positifs à la louange, l'honneur et la gloire de Christ. » Est-ce que vous vous sentez faible aujourd'hui? Je me sens faible, vraiment. Si vous vous sentez faible comme moi, considérez-vous que votre fauteuil roulant, que votre faiblesse, loin de constituer un handicap, est en fait un outil permettant de toucher des personnes non chrétiennes. Comprenez-vous que notre faiblesse permet à Dieu de manifester sa puissance? C'est comme ça que Dieu manifeste sa puissance, au travers de la faiblesse. C'est comme ça qu'il révèle son bras, l'évangile, à ceux qui ne le connaissent pas. Avons-nous conscience que notre salut, comme celui des autres d'ailleurs, ne dépend en aucun cas de nous-mêmes, mais de Dieu dont la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Comme vous le savez, je travaille pour les GBU, Groupe Biblique Universitaire, depuis 5 ans maintenant. Et en fait, mon travail fut ponctué de moments très encourageants. Je me souviens notamment de la conversion du jeune chinoise que certains d'entre vous connaissent à l'église, hein, qui s'appelle. Comment il s'appelle déjà? San, je pense. Qui est rentré aux États-Unis. Donc des moments très encourageants, vraiment. Mais aussi des moments très décourageants, vraiment. Où je suis rentré le soir, hein, j'avais envie de pleurer, franchement, quoi. Tellement j'étais découragé. Et ces moments m'ont vraiment fait douter, je pense, de la capacité de Dieu à manifester sa puissance en France, dans notre pays, à Lyon, en région Rhône-Alpes. Peut-être fallait-il aller à l'étranger, en mission au Brésil ou en Afrique, par exemple, pour vraiment voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Des foules de 5 000 personnes qui se convertissent. C'est ce que je me disais dans ces moments-là. Secrètement, en fait. Et si, mes amis, et si? Et s'il était possible de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre pays aujourd'hui, en lui faisant confiance, simplement en lui faisant confiance, en laissant Dieu parler dans sa parole, comme nous le faisons tous les jeudis soirs, dans le cadre de l'étude biblique, je vous invite à venir et inviter vos amis, mais aussi tous les dimanches soirs, quand nous ouvrons la parole de Dieu. Et s'il était possible de voir la puissance de Dieu à l'œuvre à Lyon, dans notre ville, en lui faisant confiance, en témoignant de l'évangile et en laissant le charme agir, un peu comme l'odeur de déodorant Axe, comme ça. Comprenez maintenant? En répandant l'odeur, le parfum. Ah, ça sent bon. L'odeur, le parfum de la connaissance de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. En nous laissant surprendre, vraiment surprendre, par la façon dont Dieu intervient dans ce monde pour attirer les hommes à lui. Par la stratégie de Dieu, par son plan qui est radicalement différent du nôtre, du mien en tout cas. Par sa puissance qui s'accomplit dans la faiblesse. On prie? Notre Dieu, notre Père, je te demande pardon pour mon incrédulité et je prie que tu viennes au secours de mon incrédulité, Seigneur. En m'aidant à voir comme toi, tu vois. Seigneur, en me permettant de ne pas être conditionné par ma vision du monde, qui m'empêche parfois de croire en certaines choses, mais en étant conditionné par ta grandeur. Car pour toi, rien n'est impossible, Seigneur. Pardon, Seigneur. Et merci, parce que tu t'es révélé à nous au travers de ta faiblesse. Un serviteur apparemment insignifiant, un serviteur inconsidéré. Un serviteur repoussant, un serviteur qui a accepté de mourir pour nos péchés, qui est mort à notre place, pour que nous puissions être en paix, en règle, réconciliés avec Dieu. Je prie que tu renouvelles notre confiance en toi, Seigneur, en ta puissance, et que tu nous aides à surmonter l'incrédulité pour te glorifier. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.